Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europe 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour à tous, bienvenue dans les carnets du monde, confinés, chacun chez soi et pourtant tous ensemble, grâce à la radio, pour aller entendre quel est l'impact du virus dans la vie des gens partout sur la planète. Et on sera d'abord auprès de ceux qu'on pourrait appeler les doubles confinés. Par exemple, dans l'enclave palestinienne de la bande de Gaza, sous blocus depuis près de 14 ans.
Le sentiment d'enfermement est terrible. Donc, et pour nous, Palestiniens de Gaza, nous sommes passés d'une prison ouverte à une prison fermée.
Et qu'en est-il dans les camps de réfugiés où la promiscuité fait craindre le pire si le Covid-19 y entre, comme ici à Moria, sur l'île de Lesbos, en Grèce.
Quand toutes les autorités sanitaires du monde disent qu'il faut se laver les mains plusieurs fois par jour, c'est impossible pour les gens à Moria. Quand les autorités sanitaires disent que s'il y a des cas suspects, il faut isoler ces personnes, c'est tout à fait impossible dans le camp de Moria où les gens vivent entassés les uns sur les autres dans leurs tentes ou dans les containers.
Nous irons aussi au Brésil où les habitants des favelas sont particulièrement exposés, dans cet immense pays où le président d'extrême droite est un covido-sceptique, ce qui provoque la colère d'une partie de la population. Cette crise sanitaire historique met aussi à l'épreuve l'Union européenne. Les noms d'oiseaux ont fusé la semaine dernière entre certains dirigeants. Les Italiens, qui se sont sentis seuls sur le front en première ligne face au virus, semblent se détacher un peu plus encore de cette Europe qu'ils ont pourtant contribué à fonder.
Tous les pro-européens en Italie sont extraordinairement inquiets et beaucoup plus, je crois, qu'en France. Ils disent, mais est-ce que l'Union européenne va être capable de sortir indemne de cette crise ?
À Bruxelles, Isabelle Horry décryptera pour nous ce qui se joue en ce moment entre les 27. Le coronavirus teste aujourd'hui la solidarité de l'Union européenne. Et comme en ce moment, plus que jamais, on a besoin d'avoir des perspectives d'avenir, on appellera Mathieu Bodin. Il est historien et prospectiviste, convaincu qu'on est en train de vivre la fin d'un monde, mais que ce n'est pas la fin du monde. La suite dépend de nous. Le roi de l'évasion, Nicolas Caro, nous proposera un tour du monde en 80 jours et même deux tours du monde. Quant à Joseph Chovanec, il s'interroge sur cette injonction « rester chez soi ». Mais c'est où chez nous? Les carnets sont ouverts. Et pour commencer, direction Gaza.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Restez chez vous, c'est le mot d'ordre mondial pour essayer d'empêcher la propagation du virus. C'est la raison, c'est le bon sens, la prudence aussi. Mais pour certains qui sont déjà coincés chez eux sur des territoires en grande difficulté, ce mot d'ordre résonne étrangement. Gaza, au Proche-Orient, c'est donc notre première destination. La bande de Gaza, c'est une mince langue de terre de 40 km de long, coincée entre la Méditerranée, Israël et l'Égypte. 2 millions de personnes s'y entassent. Bonjour Clotilde Mravko.
Bonjour Sophie.
Vous êtes la correspondante d'Europe 1 au Proche-Orient, basée à Jérusalem, d'où vous nous parlez. Alors l'isolement, ces Palestiniens de l'enclave de Gaza en ont l'habitude en quelque sorte, puisque ça fait plus de 13 ans qu'ils sont soumis à un blocus israélien et égyptien. Et pourtant, même presque coupé du monde, le virus a réussi à rentrer là aussi. On sait comment, Clotilde ?
Oui, parce que l'enclave n'est pas tout à fait coupée du monde. Quelques chanceux décrochent des permis pour voyager. Mmh. Et ce sont deux Gazaouis qui revenaient du Pakistan qui ont été les premiers à être testés positifs il y a de cela 2 semaines. À ce moment-là, les autorités du Hamas, le mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza, avaient déjà ordonné à tous ceux qui revenaient de l'étranger d'être immédiatement placés en quarantaine. Mmh. Donc pour l'instant, les rares cas détectés, une dizaine, sont tous en fait des gens qui étaient en quarantaine avec ces deux malades. Ouais. Ou bien le personnel de sécurité qui les surveillait. Mais en réalité, impossible de savoir s'il y a d'autres cas. Les médecins que j'ai contactés m'expliquaient qu'il manque de tests. Et c'est uniquement grâce à ces tests que les personnes infectées ont été découvertes, car aucun des malades ne présentait de symptômes.
Asymptomatique donc. Les habitants de la bande de Gaza ont l'habitude d'avoir leur liberté de mouvement réduite, mais comment s'organisent-ils cette fois face au risque d'épidémie ?
Au début, les Gazaouis faisaient beaucoup de blagues. Pour une fois, le monde entier vivait ce qu'ils endurent depuis des années, le fait de ne pas pouvoir voyager, d'être bloqués. Puis petit à petit, ils ont commencé à avoir peur et se sont encore un peu plus enfermés. C'est ce que m'a raconté Ziad Medour. Il est professeur de français et chercheur dans une des universités de Gaza. Et pour l'instant, il est confiné chez lui avec sa femme et ses 5 enfants.
Moi, personnellement, avec ma famille, on est confiné depuis le 5 mars. Presque 3 semaines qu'on est confiné depuis la fermeture des universités, des écoles, des marchés. Donc, à part les supermarchés, les grandes surfaces, quelques magasins. Donc, on peut dire que la vie est paralysée. C'est vrai, la situation est très difficile. Donc, il y a les coupures d'électricité. Donc, nous avons chaque foyer, il a 8 heures d'électricité par jour. Donc, c'est insuffisant. Les étudiants suivent les cours à distance via Internet avec le professeur. Donc, tout le monde utilise Internet. Et toutes les familles sont confinées. Donc, voilà, il y a un problème de coupure d'électricité, un problème de saturation d'Internet. Pour moi, j'ai une batterie rechargeable, ça veut dire quand il y a l'électricité, je recharge la batterie. Et quand il n'y a pas d'électricité, j'utilise cette batterie pour les lampes et pour Internet.
Et comment vous percevez ce nouveau confinement qui s'ajoute aux années de blocus qu'a déjà connu Gaza?
En fait, le sentiment d'enfermement est terrible. Donc, et pour nous, Palestiniens de Gaza, nous sommes passés d'une prison ouverte à une prison fermée. Donc ça fait 14 ans qu'on est interdit de sortir, que les passages sont fermés, les patients ne peuvent pas se soigner dans les hôpitaux israéliens et palestiniens en Jordanie. Les étudiants, ils ont perdu leur bourse pour les études. Toute une population était enfermée donc chez elle à cause de ce blocus israélien. Il y a un double sentiment chez les Palestiniens. D'une part, ils sont solidaires avec le monde entier, mais en même temps, ils espèrent que le monde entier s'intéresse au sort de ces 2 millions de Palestiniens qui mettent fin au blocus israélien, qui mettent fin à la souffrance au quotidien de ces 2 millions de Palestiniens de Gaza.
Voilà, les habitants semblent prendre la situation au sérieux. Qu'est-ce qui est fait du côté des autorités, Clotilde, à part la fermeture des écoles et des commerces non indispensables?
La première stratégie ici, c'est la quarantaine. Toute personne revenant de l'étranger à Gaza a été mise à l'isolement dans des centres fermés. Environ 1800 personnes aujourd'hui sont ainsi réparties dans 25 endroits différents. Des écoles, des hôtels ont été réquisitionnés. La quarantaine est désormais de 21 jours. Elle est devenue très stricte après l'apparition des cas de contamination. Et certains professionnels de santé que j'ai contactés disent que, compte tenu de la situation à Gaza, ce qui a été fait jusque-là n'est pas trop mal.
Et alors, si jamais la situation venait à empirer, qu'est-ce qui risque de se passer ?
Eh bien, un seul chiffre donne l'ampleur du problème à Gaza. Aujourd'hui, il y a 87 respirateurs pour 2 millions de personnes. Ouais. Et les deux tiers sont déjà utilisés pour des patients qui en ont besoin pour d'autres pathologies. La moitié des médicaments ne sont pas disponibles à Gaza. Le personnel médical n'est pas bien formé. Le système de santé, avant même l'arrivée du coronavirus, était au bord de l'effondrement. Il serait impossible de traiter des patients à Gaza si l'épidémie venait à prendre des proportions comme en Europe.
Alors, face à ce tableau très noir et qui est connu de tous, qui aide les Gazaouis aujourd'hui ?
Eh bien, l'autorité palestinienne, qui depuis des années est en conflit avec le Hamas, a acheminé un peu d'aide cette semaine depuis Ramallah. Les organisations internationales se mobilisent, l'ONU, les ONG comme Médecins Sans Frontières, mais elles sont aussi très inquiètes. Elles expliquent qu'elles ne pourront pas faire face seules et tous les regards se tournent évidemment vers Israël. Depuis quelques semaines, l'État hébreu peaufine de son côté les différents scénarios, car même si elles ne sont plus physiquement présentes à Gaza depuis 2005, les autorités israéliennes seraient tenues responsables si la situation devenait hors de contrôle. Elles ont annoncé la semaine dernière avoir envoyé des kits de tests à Gaza, mais le Hamas a déjà mis en garde Israël. Si jamais l'enclave n'arrive pas à soigner tous ses habitants, les tensions pourraient rapidement s'exacerber.
Merci beaucoup Clotilde pour ce coup de projecteur sur le sort des Gazaouis confinés au cœur de leur territoire déjà bouclé, sujet que vous avez réalisé en passant des coups de fil, car bien entendu, il n'était pas question d'aller dans la bande de Gaza. Merci Clotilde, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Et c'est au Brésil qu'on file maintenant, immense pays fédéral où ce sont les États et les municipalités qui ont pris des mesures de quarantaine. Jair Bolsonaro, lui, continue à nier la nécessité du confinement. Le président estime même qu'il faudrait rouvrir les écoles. Pour l'instant, le Covid-19 a fait quelques centaines de morts, des chiffres sans doute sous-estimés. Et le pire est à venir, le pic est attendu pour fin avril. Et dans l'un des pays les plus inégalitaires au monde, 10% des Brésiliens détiennent 55% de la richesse nationale. Rester chez soi n'est pas simple pour une partie de la population. Je veux parler de ce quart des Brésiliens qui vit dans les favelas. Bonjour Marino Dacher.
Bonjour.
Vous êtes à Sao Paulo, où sont ces périphéries qui regroupent les plus fragiles, loin du centre-ville et des bassins d'emploi. Cette crise sanitaire, pour eux, c'est la double peine. C'est un quotidien impossible.
Oui, alors d'abord à cause de la très forte densité de population dans ces quartiers. Quand vous vivez à plusieurs dans de petits espaces, le confinement est une épreuve. Et puis dans ces favelas, les systèmes d'assainissement sont au mieux fragiles, voire défectueux. Comment se laver les mains quand il y a des coupures d'eau plusieurs fois par jour, me racontait une jeune mère de famille de la favela de Paraisopolis. Pour cela, la seule solution pour se désinfecter, ce sont les solutions hydroalcooliques, mais on n'en trouve quasiment plus. Une agence de presse spécialisée dans l'info des périphéries, qui s'appelle l'agence Mural, a fait une enquête au début de la pandémie dans 88 pharmacies et supermarchés, et seules 13 d'entre elles avaient encore du gel hydroalcoolique en stock.
Ouais, donc de très grandes difficultés pour les plus précaires pour appliquer les fameux gestes barrières de base et donc pour se protéger au quotidien. Et c'est une population en plus, Marie, qui est confrontée à une équation économique impossible.
Oui, parce que ce sont des familles pauvres pour beaucoup. Et donc, par exemple, très concrètement, une des questions qui se pose, c'est comment nourrir nos enfants? Comment faire 3 repas par jour? Quelques 700 000 enfants mangeaient à l'école publique, mais toutes sont fermées depuis plus de 3 semaines maintenant. Et donc, on craint déjà que l'une des conséquences de ce confinement soit la malnutrition. D'après une étude de l'Institut Data Favela et Locomotiva, plus de 9 mères de famille sur 10 ont déjà peur de manquer de nourriture. Et pour un tiers, c'est une réalité.
Et par ailleurs, il n'y a pas de chômage partiel pour ces Brésiliens-là?
Ben non, vous savez, 40% de la population ici, ce sont des travailleurs informels, c'est-à-dire sans contrat de travail. Donc ceux-là n'ont pas le choix. S'ils veulent se nourrir, ils doivent sortir pour travailler. Par ailleurs, le Brésil est le pays qui compte le plus d'employés de maison au monde. On les appelle encore ici les domestiques, ce sont les nounous, les femmes de ménage. Oui. Eh bien, elles continuent à traverser la ville en bus et en métro pour aller chez ceux qu'elles appellent leurs patrons, parfois avec des masques et quelques précautions d'hygiène. Au début de la pandémie, il y a eu un cas emblématique de cette violence des inégalités sociales. À Rio de Janeiro, une femme de ménage de plus de 60 ans est morte à l'hôpital du coronavirus. Sa patronne revenait d'Italie et elle se savait contaminée. Donc vous voyez, le confinement est quasi impossible et beaucoup vont affronter des problèmes de survie.
Et du côté du gouvernement, aucune aide n'est prévue ?
Alors, il a promis une aide de 600 réals par mois pendant 3 mois. Au plus modeste, ça fait 105 euros. C'est la moitié du salaire minimum. Évidemment, ce n'est pas assez pour inciter les gens à rester chez eux pour limiter la propagation. Bien sûr. Puis, cette aide tarde à venir. On en parle déjà depuis une semaine. Et beaucoup craignent que le virus ne fasse des ravages ici, car le système de santé publique sera débordé face à l'afflux de malades.
Alors, on comprend que le gouvernement fait très peu. On vient de vous entendre. Le président Bolsonaro continue à nier la gravité de la pandémie mondiale. Il parlait au début d'une petite grippe, n'est-ce pas ?
Oui, au point que Twitter, Facebook et Instagram ont supprimé des messages publiés sur les comptes officiels du président, estimant qu'il véhiculait une désinformation qui causait du tort à la population. Mais Jair Bolsonaro commence à changer un peu de ton, sans doute à cause de ça. Ce que vous entendez là, ce sont les panelas, c'est-à-dire les concerts de casseroles, tous les soirs depuis 15 jours, quand Bolsonaro prend la parole à la télévision. Les Brésiliens manifestent ainsi leur ras-le-bol. Cette scène se passe dans un quartier de classe moyenne à Santa Cécile, où les électeurs de Bolsonaro ne sont pas majoritaires. Et on sent bien cette révolte qui gronde au balcon. Écoutez cet homme, par exemple. Bolsonaro assassin. De leur côté, les pro-Bolsonaro, eux, organisent des carreatas, c'est-à-dire des sortes de manifestations sans sortir de leur voiture. Leur credo, c'est l'économie. Au Brésil, non pas du parar. Le Brésil ne peut pas s'arrêter de tourner, disent-ils. Ouais. Mais Bolsonaro apparaît de plus en plus isolé, en désaccord avec les gouverneurs, les juges de la Cour suprême, les présidents des deux chambres. Mais certains de ses ministres se prononcent quand même pour le confinement. Et puis, l'ONU et l'OMS prévoient que cette crise sanitaire va créer une nouvelle légion de pauvres. Et au Brésil, le pire est à craindre.
Marine Audacher, vous suivrez ça pour nous, pour Europe 1. Vous continuerez à nous raconter comment cette pandémie est vécue au Brésil. Merci beaucoup pour ce coup de projecteur. À très bientôt.
À bientôt, Sophie.
Et dans quelques instants, c'est au camp de réfugiés qu'on s'intéresse. 70 millions de personnes sont déplacées aux réfugiés dans le monde. Imaginez comme ils sont vulnérables face au Covid-19. À tout de suite.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h sur Europe 1. Elles sont environ 70 millions à travers le monde, les personnes réfugiées et déplacées, extrêmement vulnérables face au Covid-19 qui se répand, Sophie Larmoyer.
Le virus risque de se propager à une vitesse inédite dans les camps de réfugiés qui sont des lieux surpeuplés. Les ONG mettent en garde. Le Comité international de secours fait une comparaison avec le paquebot Diamond Princess. Vous vous souvenez, 700 personnes avaient été infectées sur les 3700 passagers. C'était proportionnellement 4 fois plus qu'à Wuhan, le foyer de l'épidémie en Chine, eh bien le rythme de contamination dans les camps de réfugiés pourrait être pire encore. Gwendoline de Bono est en ligne avec nous, bonjour.
Bonjour.
Toute confinée que vous êtes, Gwendoline, vous avez mené une petite enquête. On va d'abord parler de la situation dans le camp de Moria, dont on a parlé il n'y a pas longtemps dans les carnets du monde. C'est ce camp situé en Grèce sur l'île de Lesbos. 20 000 personnes y vivent dans des conditions déplorables. Aucun cas de coronavirus n'est encore à déclarer à l'intérieur, mais les autorités qualifient ce camp de bombe sanitaire.
Oui, il faut savoir que ce camp est conçu pour accueillir 3000 personnes seulement. Il y en a 6 fois plus aujourd'hui. Donc la réalité à Moria en ce moment, c'est qu'il y a une douche pour 200 personnes, un robinet d'eau pour 1300 personnes. Il faut faire la queue, ouvrir des portes, hein, dont les poignets ont évidemment été touchés par des milliers d'autres. Autant dire qu'il est impossible d'appliquer les gestes barrières. C'est le constat de Stéphane Oberheit, le chef de mission de Médecins Sans Frontières en Grèce.
Quand toutes les autorités sanitaires du monde disent qu'il faut se laver les mains plusieurs fois par jour, c'est impossible pour les gens à Moria. Quand les autorités sanitaires disent que s'il y a des cas suspects, il faut isoler ces personnes, c'est tout à fait impossible dans le camp de Moria où les gens vivent entassés les uns sur les autres dans leurs tentes ou dans les containers. Les seules mesures que l'on peut dire aux gens, c'est de garder une distance d'un mètre entre les uns entre les autres. Mais à nouveau, pour dormir, la nuit, ils sont tous entassés, impossible de garder des distances de protection. Donc, nous essayons d'expliquer à la population de Moria comment se protéger, mais à nouveau, c'est difficile pour eux de comprendre qu'on les laisse dans une situation autant à risque. Mais ce stress supplémentaire est très difficile pour les gens. Donc ça crée des tensions, des violences dans un camp qui est déjà extrêmement violent. C'est une situation extrêmement tendue, très inhumaine pour les personnes vivant dans ce camp.
Alors ce que ces équipes essayent de négocier aujourd'hui avec les autorités grecques, mais aussi avec l'Union européenne, c'est l'évacuation des personnes à risque, c'est-à-dire les personnes âgées ou celles souffrant de maladies chroniques comme le diabète, par exemple.
L'idée, c'est aussi que le Covid-19 n'entre pas dans le camp.
Absolument, l'idée c'est de le rendre le plus hermétique possible, de faire en sorte qu'aucun porteur du virus n'y entre. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de nouvelles arrivées dans le camp. Les réfugiés qui sont arrivés ou pourraient arriver vont vers d'autres structures sur le continent, hein, pas sur les îles. Et par ailleurs, les équipes médicales qui travaillent à l'intérieur du camp, en tout cas celles de Médecins Sans Frontières, prennent des mesures. Avant d'être envoyés à Moria, ils se confinent pendant 14 jours. Voilà, pour limiter le risque d'introduire le Covid-19, qui serait évidemment totalement hors de contrôle une fois dans le camp.
Alors, autre situation à gros risque, celle des déplacés dans le nord de la Syrie, dans la région d'Idlib. C'est la dernière contrôlée par l'opposition. 1 million de personnes y ont trouvé refuge depuis le mois de décembre. Donc au total, la province d'Idlib compte près de 4 millions d'habitants. Pour l'instant, la Syrie n'a déclaré que 5 cas de Covid-19, mais ce sont les chiffres du régime. Et il n'y en a pas encore de cas dans les camps.
Non, mais on retrouve évidemment les mêmes risques que dans le camp de Moria, c'est-à-dire qu'on parle de personnes qui ont du mal à trouver chaque jour de l'eau potable, donc c'est pas pensable de se laver les mains en permanence. Avoir une tente, c'est parfois un luxe dans la région d'Idlib, donc il n'est pas pensable non plus de ne pas dormir avec sa famille dans la tente. Et l'autre problème majeur, si le coronavirus entre dans cette région d'Idlib, ce sont les infrastructures, parce que là, les hôpitaux ont été bombardés par les forces russes et les forces du régime. En gros, il en reste à peu près en fonction 6 pour toute la région. Le docteur Ziad Alissa est médecin, anesthésiste réanimateur franco-syrien. Ses équipes sont sur place et ils font avec des moyens presque inexistants.
On a à peu près 300 médecins là maintenant pour ces 4 millions de personnes là-bas. Il y a un manque énorme, On est en train de compter sur les internes, sur l'élève de médecine, sur l'élève infirmière. Comment ils vont faire face? Il y a à peu près 100 places en réanimation, bon, 170 places en réanimation. Le problème, qu'ils sont souvent pleins en cas de coronavirus avec des complications qui nécessitent quand même le transfert en réanimation, nous sommes devant une vraie catastrophe humanitaire.
Gwendoline, comment expliquer que pour l'instant, il n'y ait pas de cas dans cette région ?
Alors la réponse est simple, parce qu'il n'y a pas de test. En fait, on ne sait pas si des Syriens dans la province d'Idlib ont contracté le Covid-19. Il y en a qui ont des symptômes. 300 tests ont été envoyés par l'OMS, d'autres devraient suivre. L'idée, c'est de pouvoir tester les personnes qui ont des symptômes, mais encore une fois, pour l'instant, on parle de 300 tests pour 4 millions d'habitants.
Ouais, c'est ça. Ça n'empêche pas le docteur Alissa et ses équipes de préparer le terrain ?
Absolument, ils sont à pied d'œuvre avec ce qu'ils ont. D'ailleurs, le docteur Alissa est sur tous les fronts puisque en tant qu'anesthésiste, il travaille dans un hôpital français. Il s'occupe de malades du Covid-19 ici toute la journée et le soir, il imagine des solutions pour la Syrie.
Malheureusement, c'est ça, la prise en charge en France avec tous les moyens. Lorsque je compare avec la Syrie, on ne peut pas appliquer tout là-bas en Syrie. Je sais que si la coronavirus va rentrer en Syrie, il y aura plus de victimes qu'ici en France. Parce qu'ici, avec tous nos moyens, on perd des gens. Tous les jours. Mais ce qu'on est en train de faire avec les collègues là-bas sur place, on est en train de discuter, on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire là-bas pour faire un protocole local réalisable là-bas.
Alors pour l'instant, ils ont décidé d'attribuer un code aux personnes qui tomberont malades en Syrie. Vert, symptômes légers. Orange, symptômes plus graves. Et maladies chroniques comme le diabète. Rouge pour les personnes qui ont peu de chances de survie. On va se concentrer sur les malades orange, dit le docteur Alissa. Pour la partie rouge, on sait déjà qu'on ne pourra rien faire pour eux.
Voilà, et vous le dites, hein, les ONG alertent. Merci en tout cas de nous avoir permis d'entendre ces acteurs de terrain, ces médecins et humanitaires qui affrontent des montagnes de risques. Merci beaucoup, à bientôt Gwendoline.
À bientôt.
Un peu d'évasion, ça vous dit? C'est Nicolas Caro qui nous ouvre la porte d'un grand roman dans quelques instants.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec Sophie Larmoyer. Le temps du confinement, c'est l'occasion de se replonger dans de bons bouquins ou de les découvrir. Et Nicolas Caro est justement là pour nous donner quelques conseils de lecture.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Alors on rebaptise provisoirement cette chronique Un livre dans le monde confiné. Vous continuez votre balade dans les classiques qui nous font voyager, Nicolas. Et cette semaine, vous nous emmenez faire non pas un, mais deux tours du monde.
Oui, l'un en 80 jours et l'autre en 72. Le premier, tout le monde connaît, même sans l'avoir lu, c'est l'un des romans les plus célèbre de la littérature, Le Tour du Monde en 80 jours, bien sûr, de Jules Verne. Ouais. Vous connaissez l'histoire, Phileas Fogg, un gentleman anglais, fait le pari avec les membres de son club de réussir à faire le Tour du Monde en 80 jours. Ouais. Tout ça pourquoi? À cause d'un article dans le journal, une théorie selon laquelle, avec les moyens technologiques, cette prouesse serait réalisable. Mmh. Prouesse parce qu'à l'époque, c'est inconcevable. Le Tour du Monde en 80 jours, c'est du Jules Verne pur parce que ça mêle le voyage, ouais, l'aventure, la science. C'est un roman sur la révolution industrielle en fait. Phileas Fogg, avec son valet français Passepartout, utilise tous les moyens de transport, train, bateau, etc. Ce faisant, on voyage beaucoup et à toute vitesse, on traverse l'Europe, on passe par l'Inde, la Chine et l'Amérique dans la largeur, de San Francisco à New York. La fin du roman est superbe. Je ne la dévoile pas à ceux qui ne l'ont pas lu et ne la remémore pas à ceux qui l'ont oublié, mais elle est géniale.
Et tel que je vous connais, vous allez me dire que Phileas Fogg a existé. C'est votre spécialité, ça?
Absolument. Il s'appelait George Francis Train, un milliardaire américain très fâché contre Jules Verne d'ailleurs quand il a vu débarquer le roman. Il a même accusé l'auteur de lui avoir volé son idée parce qu'il a effectivement fait un tour du monde en 80 jours avant la parution du roman en 1872.
Et vous vouliez nous faire part d'un autre tour du monde, est-ce que c'est celui-là, celui de George Francis Train?
Non, celui de Nellie Bly après la parution du roman de Jules Verne et en son honneur, une histoire vraie, un tour du monde en 72 jours. C'était en 1889, un exploit, surtout qu'il est réalisé par une femme. Ouais. Ça n'a rien d'habituel en cette fin du 19e siècle. Elle s'appelle donc Nellie Bly, c'était une journaliste américaine pour le journal Le New York World et elle a raconté son histoire dans un livre qui n'a été traduit qu'assez récemment en français, Le Tour du Monde en 72 jours aux éditions du Sous-Sol.
C'est un hommage ou c'est un défi?
Les deux. Le livre lui a donné l'idée de son reportage, effectivement. Elle veut battre Phileas Fogg, le héros de Jules Verne. Son rédacteur en chef est d'accord et elle part donc le 14 novembre 1889 à 9h40 et 30 secondes.
Génial.
Et elle nous raconte au fur et à mesure. Son voyage est diffusé simultanément par son journal. Un jeu est même organisé. Les lecteurs sont invités à parier sur le temps qu'il faudra à Nellie Bly pour boucler son tour de la planète. Avant ça, il a fallu s'équiper. Elle ne prend qu'une seule robe et un tout petit bagage pour voyager facilement. Au départ, elle table sur 75 jours et 4 heures.
C'est
elle
précis.
Part de la côte est américaine, ouais, direction l'Angleterre. Grosse angoisse d'abord. Elle se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je m'afflige ça? En plus, elle est malade. Elle a le mal de mer. Elle entend un homme dire, et ça a la prétention de faire le tour du monde. Oui, parce qu'évidemment, il y a pas mal de misogynie tout au long de son parcours. Sinon, c'est pas drôle. Puis, elle se dépêche de gagner la France, où elle va rendre visite à Jules Verne en personne. Elle nous décrit la rencontre avec le couple Verne, des gens adorables. Ensuite, c'est l'Italie, Brindisi dans les Pouilles, puis Saïd en bateau, puis Aden, Colombo, Singapour, Hong Kong. Elle passe Noël à Canton. Alors, entendons-nous bien, elle ne fait pas du tourisme, elle ne flâne pas dans les jolies villes, c'est une course c'est d'abord. Mais elle nous raconte les retards, les désagréments, les petites joies aussi, ses rencontres. Elle décrit les attitudes, les comportements des indigènes, et puis elle arrive finalement à Philadelphie. Paris gagné donc en 72 jours. Il y a aussi des photos et des dessins d'illustrations de l'époque. C'est par ailleurs admirablement écrit et traduit.
Ça donne super envie, presque plus que l'original. Hein.
Et c'est disponible en numérique en plus.
Ah bah parfait. Aux éditions du Sous-Sol, donc, Nelly Bly, le tour du monde en 72 jours. Et puis le tour du monde en 80 jours de Jules Verne à relire, bien sûr. Merci beaucoup, Nicolas. On vous retrouve tout à l'heure pour La Voix et Livre.
Ça marche, à tout à l'heure.
Europe 1, les carnets du monde.
Et après ces tours du monde littéraires, cette échappée dans les livres, retour sur la situation actuelle dans laquelle nous plonge l'épidémie de Covid-19. Et avec vous, Sophie Larmoyer, eh bien on va braquer un projecteur sur l'Europe.
C'était il y a 8 jours, l'un des grands Européens de ces dernières décennies, Jacques Delors, sortait de son silence pour mettre en garde nos dirigeants. Le manque de solidarité européenne fait courir un danger mortel à l'Union européenne, selon celui qui a présidé la Commission de 1985 à 95. Le microbe est de retour, lâchait Jacques Delors. Allusion aux divisions affichées par les chefs d'État et de gouvernement des 27 la semaine dernière, au moment de décider de l'aide qu'allait apporter l'Europe aux économies stoppées nettes par l'épidémie. Et en première ligne de la crise sanitaire, nos voisins espagnols et italiens, où le nombre de victimes a largement dépassé les 10 000 morts, situation extrêmement douloureuse qui participe à l'affaiblissement du sentiment européen en Italie, pays fondateur de l'Union européenne. Écoutez le décryptage du politologue Marc Lazare, qui dirige le Centre d'histoire de Sciences Po.
L'Italie est un pays qui n'avait jamais eu, depuis la Seconde Guerre mondiale, un grand enthousiasme national. Évidemment, il fallait se différencier du fascisme qui a représenté un nationalisme belliciste, agressif, raciste, antisémite. Et donc la République italienne, née en 1946, avait fait un profil bas sur les questions de nation. Depuis une vingtaine d'années, on voit monter comme ça des moments de ferveur nationale, parfois à l'occasion, par exemple, des Coupes du Monde de football, quand l'Italie l'emporte. On pensait que c'était folklorique, mais là, dans ce drame terrible que vit l'Italie, on voit effectivement une forme de sentiment national qui n'est pas du nationalisme, mais du patriotisme. Les drapeaux italiens sont brandis sur les balcons des immeubles, on chante l'hymne national, on communie dans cette nation italienne, et on communie d'autant plus que les Italiens ont le sentiment, ont eu le sentiment, et l'ont peut-être encore, d'avoir été un peu abandonnés par l'Union européenne et par leurs voisins.
C'est ça, vous dites, plus l'Italie fait nation, plus elle s'éloigne de l'Union européenne. C'est une sorte de double constat, comme ça.
Oui, plus l'Italie fait nation en ce moment. Alors, il faudra voir si ça s'inscrit dans la durée. C'est peut-être juste un accès, un moment, une pulsion liée, encore une fois, à cette terrible crise sanitaire que traverse l'Italie. Mais oui, plus elle fait nation, plus elle se rassemble pour affronter ce terrible défi, plus elle s'éloigne de l'Union européenne. Alors là encore, ce n'est pas neuf. Il faut toujours se rappeler que l'Italie a été le pays le plus pro-européen de tous les pays fondateurs de l'Union européenne, beaucoup plus que nous, Français, qui pendant très longtemps et encore aujourd'hui sommes parfois un peu eurosceptiques. Ouais. Les Italiens, non, sont dans une phase où l'Europe les déçoit. L'introduction de l'euro les a déçus. Ils s'attendaient à un nouveau miracle économique qui ne s'est pas réalisé. Ils ont été terriblement marqués par la crise financière et économique de 2008 et 2011. Ils ont été scandalisé par le fait qu'au moment de la crise des migrants, donc à partir de 2013-2014, ils ont été livrés à eux-mêmes. Et là, c'est le quatrième épisode, et cet épisode est dramatique. Et donc, toutes les enquêtes d'opinion montrent une Italie qui n'a plus confiance dans l'Europe et qui se méfie de l'Europe. Ouais.
Ce que j'allais vous demander, ça se mesure ça dans les enquêtes d'opinion, est-ce que cet euroscepticisme par ailleurs, qui est entretenu par les populistes, est-ce que ces populistes-là en profitent dans l'opinion? Je pense à l'extrême droite de Matteo Salvini, mais aussi de l'extrême droite encore un peu plus dure, Fratelli d'Italia.
Alors oui, évidemment, les populistes exacerbent ce sentiment. Ils ont été les premiers à dire qu'il fallait fermer les frontières, que Bruxelles ne faisait rien, ce qui d'ailleurs est faux, puisque dorénavant il y a beaucoup, beaucoup de mesures prises par l'Europe, mais qui pour le moment ne se se concrétise pas aux yeux des Italiens. Et effectivement, les populistes de droite, la Ligue de Matteo Salvini et Fratelli d'Italia de Madame Giorgia Meloni, restent très haut dans les sondages sur les intentions de vote. Mais en même temps, on s'aperçoit que Matteo Salvini, qui reste un des hommes politiques les plus populaires, a perdu un peu de son ascendant. Il a perdu quelques points dans les enquêtes d'opinion, et pour une raison très simple, c'est que depuis le début de cette crise, il a montré son incohérence, son inconsistance. Il a dit tout et son contraire de tout. Il a appelé à fermer les frontières, et tout à coup, 5 jours plus tard, après avoir fait cette déclaration le 22 février, il a invité tous les étrangers à venir faire du tourisme en Italie. Ensuite, il a dit qu'il ne fallait pas prendre des mesures de confinement, notamment dans le nord de l'Italie, pour que l'économie continue de prospérer. Après, il a reproché au gouvernement de ne pas avoir pris des mesures de confinement assez sévères, tout en réclamant l'organisation d'élections anticipées. Et du coup, il a perdu un peu de sa crédibilité, mais en même temps, il reste quand même relativement haut dans les sondages.
Et peut-être aussi parce que Giuseppe Conte semble à la barre.
Tout à fait. Alors ça, c'est la grande nouveauté politique de l'Italie. Giuseppe Conte, le président du Conseil, sorti de nulle part en 2018, oui. Plus exactement de son université, qui apparaissait comme un homme plutôt falot, est apparu là en ce moment comme un homme effectivement à la barre, aux commandes, éclipsant son ministre de la Santé, communiquant en permanence, au point d'être accusé parfois de faire preuve un peu d'autoritarisme parce qu'il ne réunissait pas le Parlement. Or, l'Italie est une démocratie parlementaire. Oui. Et du coup, toutes les enquêtes d'opinion montrent une popularité extraordinairement élevée. Un des meilleurs organismes de sondage qui fait des enquêtes régulières depuis plus de 10 ans sur la popularité des présidents du Conseil a montré que la popularité de Conte n'a jamais été aussi forte depuis 10 ans par rapport aux autres présidents du Conseil. Mais attention, cet homme politique est en même temps relativement fragile, parce que lorsque l'Italie un jour va sortir de cette situation, évidemment, il va y avoir le bilan terrible du nombre de morts. Et on risque de lui en imputer une partie de la responsabilité, si ce n'est toute la responsabilité, même si ce n'est pas exactement le cas. C'est un homme qui n'a pas d'élu au Parlement. Il est seul de ce point de vue-là. Il n'a pas de parti. Donc son avenir est quand même relativement incertain. Mais pour le moment, oui, il est l'homme politique le plus populaire de l'Italie. Et c'est ce qui provoque d'ailleurs la colère de Matteo Salvini, qui aime bien être au centre de l'attention.
Dans une tribune parue jeudi dans l'hebdomadaire allemand Die Zeit, Giuseppe Conte lance un appel à l'Allemagne en disant « Si nous sommes une union, il est temps maintenant de le prouver. L'Europe est vraiment à un carrefour. »
Oui, Giuseppe Conte a fait ses déclarations, et même au-delà de Giuseppe Conte, tous les pro-européens en Italie sont extraordinairement inquiets, et beaucoup plus, je crois, qu'en France, on n'a pas la même intensité de ce débat sur la situation actuelle de l'Union européenne. Et quelle est leur préoccupation? Mais ils disent, mais est-ce que l'Union européenne va être capable de sortir indemne de cette crise? Et donc, Giuseppe Conte, effectivement, a fait cette interview, de même qu'il avait poussé, excusez-moi d'expression, mais elle est forte parce que ça a été le cas, il a poussé une gueulante au Conseil des chefs d'État et de gouvernement en attaquant les Néerlandais et les Allemands, en leur disant que s'ils ne comprenaient pas qu'il fallait mutualiser la dette, s'ils ne comprenaient pas qu'il fallait que les chefs d'État et de gouvernement, et pas simplement la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne, s'ils ne comprenaient pas qu'il fallait agir, eh bien c'est pas simplement l'Italie qui serait mal, mais c'est toute l'Union Européenne qui serait en danger. Et donc il y a une intensité du débat sur l'avenir de l'Union européenne en Italie qui est particulièrement forte.
Voilà, éclairage passionnant de Marc Lazare, politologue spécialiste de l'Italie. L'inquiétude des Italiens, la gueulante de Giuseppe Conte et finalement cette fracture nord-sud qui réapparaît. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur l'avenir de l'Union? On file à Bruxelles pour en parler avec notre correspondante Isabelle Horry. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie.
Racontez-nous peut-être pour commencer ce qui s'est précisément passé entre les Pays-Bas d'un côté, l'Italie ou encore l'Espagne de l'autre.
Alors, c'est une séquence qui a commencé il y a une dizaine de jours. Elle démarre lors de la réunion des ministres des Finances la semaine dernière. Le représentant des Pays-Bas tient des propos très désobligeants. Confronté à la demande de solidarité financière du sud de l'Europe, il rétorque « La Commission européenne devrait enquêter pour comprendre pourquoi les finances de l'Italie ou de l'Espagne ne sont pas en ordre ». Quand cette déclaration de Wopke Hoekstra a filtré dans la presse, elle a provoqué un tollé comme j'en ai rarement vu dans l'Union européenne. La palme au Premier ministre portugais qui a parlé, lui, de propos tout simplement répugnants. Mmh. Ensuite, donc, il y a eu ce sommet des chefs d'État où Conte est monté au créneau, comme l'a raconté Marc Lazare. Et finalement, cette semaine, devant la levée de boucliers en Espagne, en Italie, en France, au Portugal, mmh, le ministre a dû piteusement s'excuser pour son manque d'empathie et son pays a dû promettre qu'il serait plus solidaire.
Bon, alors finalement, que veulent les Néerlandais, en fait ? Expliquez-nous.
Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont pas tout seuls. Ce sont eux que l'on entend, mais derrière, il y a quand même l'Allemagne. Mmh. Les Allemands n'assument pas toujours leur position. Ils se cachent, m'a raconté un diplomate européen. Alors, que veulent ces pays du Nord, que leurs détracteurs surnomment le club des radins ?
Ah oui.
Eh bien, ils veulent exporter chez les autres ce qui marche chez eux, la rigueur budgétaire, l'austérité, ouais, un État à la diète. Si je me faisais l'avocat du diable, honnêtement, eux, ils ne comprennent pas comment les pays du Sud peuvent avoir encore de la dette ou des déficits alors que nous sortons de 7 années de croissance ininterrompue. D'où leur inquiétude pour la suite. À La Haye, à Berlin ou encore à Vienne, les dirigeants ont peur que 15 années d'efforts vers une politique économique plus rigoureuse soient balayées d'un coup. Donc, eh bien, ils se crispent.
Est-ce qu'ils sont en position de force ? Est-ce qu'ils ont la main ?
Sans eux, rien ne se fera, ça c'est clair. Mmh. Mais l'arrogance méprisante des Pays-Bas s'est retournée comme un boomerang contre eux. Paradoxalement, eh bien, ça a plutôt contribué à mettre de nouveau sur la table les sujets de solidarité financière, ouais, de mutualisation de la dette que réclament les pays du Sud.
Ça pourrait ressembler à quoi alors, cette solidarité accrue ?
Alors, on est en plein dans le débat et les idées fusent. Par exemple, la Commission européenne veut un fonds de 100 milliards d'euros pour financer le chômage partiel. La France, elle, propose un fonds pour la reconversion industrielle, pour ramener des industries en Europe. Le budget européen aussi pourrait être fortement augmenté et devenir l'outil d'un plan Marshall européen, comme l'a suggéré la présidente de la Commission européenne sur notre antenne cette semaine. Et enfin, il y a le mécanisme européen de stabilité, 400 milliards mis de côté pour faire face aux grandes crises. Il peut prêter de l'argent aussi. Alors, mardi, les ministres des Finances vont devoir proposer des pistes et la semaine suivante, les chefs d'État plancheront à leur tour.
Isabelle, est-ce que l'Europe est à la croisée des chemins comme on l'a beaucoup entendu, y compris dans la bouche de Jacques Delors ?
Bon, disons que cette crise, elle a une caractéristique particulière, elle frappe tout le monde. Ouais. C'est ce qu'on appelle une crise symétrique. Alors, c'est pas comme la crise financière de 2008 ou la crise migratoire de 2014-2015 qui, elle, ne touchait que quelques pays. Donc, logiquement, les conditions sont quand même davantage réunies pour une réponse forte, commune, un saut dans l'intégration européenne. Ça, c'est la version optimiste. Ouais. Version pessimiste, bien, si les 27 n'y arrivent pas face à cette crise-là, bien, ils n'y arriveront jamais.
On suivra ça avec intérêt donc dans les prochaines semaines qui s'annonce crucial et on suivra ça avec vous, Isabelle. Merci beaucoup pour vos explications. Tout est plus clair. À bientôt.
À bientôt, Sophie.
Et si on regarde un peu plus loin encore, dans quel monde voulons-nous vivre demain ? On va appeler le directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Ça fait 20 ans qu'avec toute une équipe, ils réfléchissent à ce qu'on pourrait faire pour construire un monde plus durable. À tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h42 et on écoute Le Monde changer avec Sophie Larmoyer. Et maintenant, avec vous, Sophie, nous nous tournons vers l'avenir avec une question que chacun se pose aujourd'hui. Dans quel monde voulons-nous vivre demain ?
3 semaines de confinement, d'une vie forcément différente et contrainte, parfois teintée d'angoisse ou de douleur, une période marquée pour certains par la maladie ou la mort d'un proche. Pour d'autres, c'est l'occasion de retrouvailles, de redécouverte de ses proches, d'une solidarité de voisinage aussi. En tout cas, ce virus interroge notre humanité et nous incite à nous demander dans quel monde voulons-nous vivre demain. Bonjour Mathieu Baudin.
Bonjour.
Dites à l'avenir que nous arrivons, c'est le très joli titre de votre livre publié juste avant le confinement. Vous êtes historien et prospectiviste, c'est-à-dire que vous voyagez beaucoup dans le temps entre le passé et le futur avec un credo, c'est que l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare, c'est ça ?
Oui, c'est la belle phrase de Maurice Blondel qui l'avait dit dans les années 60, dans l'après-guerre, dans un autre temps qui était lui aussi empreint de métamorphose et de disruption.
Alors en gros, votre démarche, c'est d'imaginer à quoi pourrait ressembler demain en mieux. Ça tombe bien aujourd'hui, de manière très brutale, beaucoup de choses semblent remises à plat à cause de cette pandémie mondiale. C'est un moment que personne n'a vu venir, évidemment, même si vous écrivez qu'on est justement à la jonction entre deux mondes en ce moment.
Je pense qu'on a tous eu peur d'une pandémie. Hein. De nombreux films de science-fiction s'en sont inspirés, ouais. De nombreuses séries plus ou moins dystopiques nous l'ont prédit. Donc on a cette peur aussi ancienne, puisqu'on a déjà connu à travers les siècles, mais on ne pensait pas que ça allait nous arriver pour de vrai. C'est la différence entre la théorie et la pratique. C'est la différence entre toutes ces alertes qu'on donne depuis 50 ans sur la biosphère, sur le climat, qui sont des chiffres, qui sont des probabilités que ça arrive, et là... Ça arrive, ça nous touche dans notre cœur, dans notre intimité, mais aussi dans notre économie. Et donc on est en train de vivre une partie d'un des scénarios qu'on ne voulait pas voir advenir.
Alors en quoi ce Covid-19 et ce confinement qu'il nous impose sert de révélateur aujourd'hui entre ces deux mondes, celui qui se termine, celui qui pourrait advenir? En quoi ce virus sert de révélateur pour nous?
Alors, il y a quelque chose qu'il faut dire de manière très honnête, c'est qu'on est en train de vivre l'événement et qu'il faut d'abord l'éprouver, voir combien de tristesse il va engendrer, combien de morts aussi on va devoir comptabiliser. Et puis après, il y aura un après. Dans tous les cas, il y aura un après. Et on a aussi un temps qui nous est imposé, qui nous est offert, d'aucuns diraient, pour essayer de penser à est-ce qu'on va retrouver après la normalité. Est-ce qu'on va trouver une autre normalité? C'est ça qui nous est offert en ce moment, dans les mois, ou les peut-être un peu plus, qui nous sont devant nous.
C'est un temps qui est propice pour désirer un nouveau monde?
En fait, tous les temps sont propices au désir. Les futurs souhaitables, ce n'est pas un futur en mieux, c'est un futur que l'on veut voir advenir. En fait, quand vous faites de la prospective, il y a différents scénarios possibles. Le scénario noir est un scénario qui est très utilisé par la science-fiction, par les médias, par même le monde politique. C'est là où il ne faut pas aller. Le scénario tendanciel, c'est là où on devrait aller si tout continue. Le scénario, lui, de rupture, dont les gens de l'innovation sont très friands, c'est un petit truc ici et maintenant qui va tout changer. Et il y a le scénario souhaitable. Il y a la différence des trois premiers qui prennent l'existant et qui l'aménagent. Le scénario souhaitable, vous questionnez le futur, vous questionnez le futur dans lequel vous voulez vivre, et puis vous reculez pour voir tous les leviers à abaisser pour arriver à cette volonté. Et ça, une vertu, c'est que ça part pas de l'héritage, ça part du désir. Donc les futurs souhaitables, c'est se questionner sur le futur qu'on veut voir advenu et y contribuer.
Et en tout cas, ce virus, aujourd'hui, il nous pousse à changer de comportement parce qu'on n'a pas le choix. Mais du coup, comme on est chez nous, peut-être on cuisine plus. Apparemment, c'est ce qui semble être le cas. On cuisine peut-être différemment. On parle de relocalisation de la production de toutes sortes de matériel et peut-être de médicaments et d'alimentation aussi. Ça nous oblige à penser un petit peu différemment ou peut-être à voir avec un regard un peu plus critique le monde dans lequel on évoluait, non ?
Oui, ou à appréhender la complexité différemment. Ce qui arrive dans nos assiettes ne vient pas de nulle part. Ce qui nous manque nous fait éprouver justement une sensation que ce n'est pas normal de ne pas avoir une nature comme on l'a toujours rêvé. Regarder à travers la fenêtre nos envies de voir des oiseaux et s'apercevoir qu'il y en a un peu moins. La crise, on est en train de la vivre, mais on peut déjà constater que le modèle d'avant n'était pas un modèle tenable. Ça fait longtemps qu'on le dit. C'est d'ailleurs normal qu'un modèle qui n'est pas durable, à un moment donné, commence un peu à s'effondrer. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut voir advenir? C'est quoi l'important après? C'est quoi l'essentiel pour nous? Et certainement, vivre plus en harmonie ou en symbiose ou en relation avec ce qui nous est proche est quelque chose qui va ressortir.
Edgar Morin disait cette semaine dans une interview à l'Obs que cette crise nous montrait que la mondialisation est une interdépendance sans solidarité et puis que ce confinement allait nous aider à commencer une détoxification de notre mode de vie. Vous validez ça? Vous êtes d'accord avec ça?
En tout cas, ça nous montre que notre modèle, il est fragile. Il est fragile. Le modèle tel qu'il a été pensé dans les années 60, justement, pour rebondir encore avec la période de Maurice Blondel, un système pensé pour 450 millions d'individus qui étaient les Occidentaux, qui avaient à disposition l'entièreté de la planète à travers les colonies pour soutenir leur modèle économique de relance, finalement, après une guerre qu'on avait savamment causée nous-mêmes, eh bien ça, c'est pas tenable quand on est 9 milliards et qu'il y a une seule planète, que la ressource n'a pas augmenté. Donc c'est le système même d'exploitation, le système qu'on trouve normal, qui doit être repensé, qui doit être transformé.
Alors, tournons-nous vers l'avenir. Allons-y, Mathieu Baudin. Vous avez créé pour ça un outil, l'Institut des Futurs Souhaitables, qui réunit plus de 150 personnes d'horizons très différents, mais qui sont tous très bons dans leur domaine, hein, experts, pour réfléchir ensemble au monde de demain. C'est une démarche d'explorateur, vous expliquez ça. L'idée, c'est d'abord de faire un état des lieux, de réfléchir, et puis d'être des acteurs, de faire en sorte que ce monde qu'on souhaite arrive. L'horizon que vous vous êtes fixé dans votre réflexion, c'est 2040, c'est très bientôt.
2040, c'est demain. 2040, c'est la prochaine génération humaine, c'est dans 20 ans. 2040, c'est assez loin pour qu'on puisse voir différemment les choses et assez proche pour que tout le monde soit là. Mmh. 2040 aussi, c'est une date joliment symbolique. Et donc, c'est un horizon de temps pour essayer de nous extraire un petit peu de l'urgent. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez senti comme moi, mais l'urgent a un peu envahi nos pensées du moment. Et donc, se prendre un petit pas de côté pour essayer d'éloigner l'horizon, pour essayer d'imaginer ce qu'on veut vraiment demain.
Alors, à votre avis, à la lumière de vos travaux et de cette crise qu'on traverse tous, où qu'on soit sur la planète, on fait une croix sur quoi? Et quelles sont les lignes forces du monde d'après qui émergent?
Ce qui est... Là encore, on est au cœur de l'événement, mais il y a un truc qui ressort, c'est que le pangolin, il y est pour rien en fait.
Ouais.
C'est pas la faute du pangolin, c'est la faute de l'humain qui, voulant toujours s'étendre un peu plus pour avoir des terres, pour essayer de cultiver ou de faire paître je ne sais quel animal pour augmenter encore sa consommation, c'est bien là le problème justement. Mmh. Et donc, il va falloir se raisonner peut-être, se réfréner, peut-être faire mieux avec moins. Et dans cette double impératif, il y a du moins, donc une perte de quelque chose, mais il y a aussi du mieux, un gain qualitatif. Donc c'est quoi le gain qualitatif que l'humanité veut faire? Est-ce qu'on veut vivre plus heureux? Est-ce qu'on veut vivre plus ensemble? Est-ce que cette grande humanité qui est confrontée au même problème pourrait se réunir pour essayer de penser à un monde plus symbiotique? Vous savez, cette réflexion biologique que le mode de consommation qui est la règle actuellement et qui est hérité d'un 20e siècle qui a du mal à finir.
Mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'on va réussir à, comme ça, à changer de dimension, que les résistances ne seront pas plus fortes? En 2008, il y a eu cette crise financière, on a pensé que beaucoup de choses changeraient, et pourtant, la course à la croissance a repris comme avant.
Ah, vous avez raison. Il y aura des résistances, assurément, entre celles et ceux qui ne veulent pas changer, celles et ceux qui sont des seigneurs du monde d'avant, qui ont du mal à partager après, mais il y aura aussi un nombre toujours plus croissant de gens qui vont dépasser le modèle, qui vont dire, vous pensez que ce n'est pas possible, ok, on va le faire. Et pourquoi on veut le faire? Parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Le mode tel qu'il est nous conduit droit dans le mur, on commence à le ressentir là pendant ces mois, mais ce sera encore vrai après. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'alternatives qui font différemment dans tous les champs.
Les solutions, elles existent déjà.
Elles existent déjà, elles attendent de passer à l'échelle. Il y a toujours le pari du passage à l'échelle. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas encore à trouver les solutions. On a à expérimenter à l'échelle des choses qui existent déjà dans tous les champs.
Vous dites dans l'agriculture, l'énergie, tout.
L'éducation, la relation intergénérationnelle, le rapport géopolitique. On a une réflexion même sur le design du jeu qu'on est en train de créer dans les organisations, sur le but d'une entreprise. Il y a des modèles alternatifs qui émergent de partout. On les traitait d'utopistes il y a 20 ans. On les reconnaît porteurs d'innovation. C'est peut-être une parcelle de demain.
Vous dites, quand on expérimente, au pire, ça marche. Et il y a plus de risques à ne pas bouger qu'à bouger. Enfin, sauf en ce moment où on est censé rester chez nous. Mais sinon, il y a plus de risques à ne pas bouger qu'à bouger. Est-ce qu'il est temps, vous pensez, que les utopistes, que nous sommes tous en puissance, passent à l'action, c'est ça?
Et encore une fois, il n'y a pas d'autre choix, à mon avis.
Ouais.
Demain sera profondément ce que nous allons en faire. C'est la grande leçon de la prospective. Et ça, encore une fois, on ne peut pas revenir à la normalité. Donc à nous de créer demain le monde qu'on veut voir advenir. D'abord chez nous, ensuite dans les organisations et éventuellement à des échelles bien plus grandes.
On ne peut pas revenir à la normalité, L'apostrophe, anormalité.
Exactement, ouais, à la normale. Ça va être ça la question, je pense, dans quelques mois. On ne pourra pas revenir à la normale parce que le système d'avant, c'était le problème.
Vous qui travaillez sur tous ces sujets depuis 20 ans, vous pensez qu'on a les outils pour s'en sortir par le haut?
Alors moi, je pense que non seulement on a les outils, mais en plus, on a les forces vives. En ce moment, on est dans une zone où Eros et Thanatos, donc l'amour et la mort, se jouent. Il y a beaucoup de forces de vie qui émergent partout dans le monde. Et ce n'est pas un truc d'Européens qui veut proroger un système. À Rio de Janeiro, à Jakarta, à Porto Novo, au Bénin, on a des conspirateurs et des conspiratrices positives qui sont déjà de porter sur eux une partie de demain. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un truc de civilisation. Quand vous prenez le temps, et là on a le temps, d'appréhender la complexité, à la fin, vous voyez qu'il y a une reconnexion homme-nature qui va se faire, pas par militantisme, mais par survie. Et ça, je trouve ça, c'est intéressant comme étape. C'est peut-être même le rêve du 19e ou du 18e siècle d'une universalité bien plus sage qui pourrait ressortir de cet événement.
Voilà, Mathieu Baudin, convaincu que le changement est en marche. Et ça fait encore une fois, je dis 20 ans que vous y travaillez. C'est pas juste une croyance comme ça. C'est le fruit d'un grand travail. Votre livre incite à regarder devant avec confiance et énergie. Dites à l'avenir que nous arrivons. C'est publié par Alizio. Et je rappelle que vous dirigez l'Institut des Futurs Souhaitables. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur Europe 1 aujourd'hui. Bon vent à vous.
Merci et bonne aventure.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est maintenant 13h53, Sophie Larmoyer, il est temps, oui, de faire un petit détour par l'Autistan avant de refermer les carnets du monde. Notre guide, vous le connaissez, c'est Joseph Chevanec, toujours fidèle, confinement ou pas.
Joseph partage son temps entre la France et la Belgique. En ce moment, il est plutôt côté Outre-Quiévrain. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Toujours confiné, comme nous tous, évidemment, mais ça vous inspire, cette expression « rester chez vous » ?
Oui Sophie, la règle est simple, nous l'avons entendu beaucoup de fois, il faut rester à la maison. Oui. En apparence c'est facile, mais dans les faits, il y a un sous-entendu problématique à travers le monde. On n'habite pas comme les Occidentaux avec schématiquement un logement par famille, et surtout le temps que l'on passe dans le logement est très variable.
Bah, a priori, chez soi, c'est un endroit où on a ses petites affaires, où l'on cuisine, pas mal en ce moment d'ailleurs, où on dort.
Oui, mais Sophie, il y a des cultures où l'on ne passe presque pas de temps chez soi. Ça m'avait beaucoup frappé en Iran, par exemple. Beaucoup de gens, notamment les hommes, n'avaient pas réellement de lieu à eux. Tant qu'ils sont éveillés, ils travaillent ou sont avec des amis. Et quand vient le moment du sommeil, ils rentrent dans une maison et dorment quelque part par terre.
Pardon Joseph, mais dans quelle maison ?
Ah, parfois des gens dont on ignorait tout 5 minutes auparavant, et ça m'est arrivé à moi aussi.
Ah bon ?
Et parfois un lieu différent chaque soir, difficile de savoir qui est réellement le propriétaire de telle chambre ou appartement. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce mode de vie n'est pas synonyme nécessairement de précarité sociale. J'avais connu d'assez hauts responsables qui vivaient ainsi en semi-SDF, et même le studio où habitait Khomeini, alors même qu'il était au pouvoir, selon les critères occidentaux n'étaient pas meublés. De mémoire, un tapis par terre, quelques livres, un dessin, c'est tout. Beaucoup de gens semblent ne pas avoir la moindre idée de là où ils dormiront le soir venu. Il y aura toujours une solution.
Ah, le confinement, évidemment, dans ces conditions, c'est compliqué, hein ?
Voire impossible. Alors, ces gens-là sont-ils des pauvres hères ? On pourrait le croire, mais attention, chacun en Iran a son chez-soi mental. Quelque part, au loin, il y a leur vraie demeure. Quand vous les interrogez, ils deviennent émus lorsqu'ils en parlent.
Ouais.
Par exemple, on vous évoquera leur ville, Kerman, leur maison là-bas. Quand bien même ils n'y sont pas allés depuis très longtemps, c'est leur maison, leur pays, les seuls qui comptent. Traditionnellement, c'était pendant les festivités du nouvel an persan, le Nowruz, que pendant quelques semaines on retournait au pays. Mais de nos jours, c'est devenu plus compliqué.
Oui, et puis là, le Nowruz est tombé en pleine pandémie. Hein. C'était le 20 mars dernier.
Oui, les gens sont partis quand même.
Ah oui.
En Russie, où il y a beaucoup de travailleurs issus d'Asie centrale, par exemple du Tadjikistan, qui est un pays de langue et de culture persane, les Russes sont souvent choqués par le mode de vie des immigrés. On les traite de clochards, de nomades arriérés. Mais les Russes oublient que ces travailleurs-là ont leur maison rêvée, où ils espèrent revenir un jour quand ils auront fait fortune. La vie, en général, en décide autrement, hélas. Mais suivre justement, ces histoires de travailleurs est très émouvant. C'est avec eux que j'ai le plus appris sur la condition humaine. Et en Chine, Sophie, il y a quelque chose d'assez similaire. C'est pas forcément surprenant parce qu'entre le monde perso et le monde chinois, les liens sont très anciens.
Similaire, vous voulez dire une maison rêvée comme ça, la maison d'enfance par exemple à laquelle on pense sans arrêt ?
Oui, et par contraste avec ces habitats alvéoles à l'espace microscopique que j'avais connu, mettons, à Hong Kong ou autre, quand je devais économiser sur mes frais d'hébergement. Mentalement, on habite non pas dans l'alvéole, mais par exemple dans la demeure familiale, le château familial ou du clan, quoi. Hein. Peut-être que dans ces temps de confinement, on pourrait mentalement habiter ailleurs, comme le disent les derniers mots du Golestan, littéralement. Le Palais des Roses, l'œuvre de l'immense poète persan Saadi. Revêtir ces vieux haillons vaut mieux que de vouloir emprunter un habit.
Voilà, et habiter mentalement ailleurs, le temps du confinement, c'est un vaste programme que vous nous proposez là, Joseph. Mais comme ça, on continue à voyager. Pas mal.
C'est le plus important. À très bientôt.
Merci Joseph, à dimanche prochain. Il est temps de refermer ces carnets du monde depuis mon salon. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui encore. Si vous vivez à l'étranger, que vous avez envie de témoigner d'une situation de confinement ou la situation du pays dans lequel vous êtes, eh bien vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante lescarnetsdumonde@europe1.fr. Les carnets du monde tout attaché @europe1.fr et je serai ravie de prendre contact avec vous. Nicolas Sixa a réalisé cette émission. Florence Gimalac l'a préparé avec moi, merci à eux. Et je passe le témoin à l'ami Nico Caro pour La Voix est libre dans quelques minutes.